enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Notre message va être sous forme un peu d'une conférence, je pense, qui est importante, basée sur le livre que j'ai écrit, disponible à l'arrière, bien sûr, qui s'appelle « Les mensonges du code Da Vinci ». Et juste pour savoir, combien d'entre vous avez été voir le film? Levez votre main si vous avez vu le film. Ce n'est pas un appel à la repentance. Levez votre main. Ça va, beaucoup d'entre vous l'avez vu déjà. Lorsqu'on parle du Code Da Vinci en un clin d'œil, c'est un livre écrit par Dan Brown. On parle de 45 à 50 millions de copies de vendues. La presse, hier, l'appelait le livre avec le plus grand tirage de l'histoire moderne à part de la Bible. Une des attaques, c'est le film numéro 1 sur la planète en ce moment, en mai 2006. C'est aussi, il constitue ce film, une des attaques les plus féroces et sournoises de l'histoire contre le christianisme biblique par son ampleur et par la masse de personnes qui vont voir et entendre les principes et les concepts de ce film-là. C'est une attaque qui est extrêmement virulente contre le christianisme. Et pour vous donner une idée de l'intérêt du livre et du film, il y a à date plus de 238 millions d'entrées ou de visites concernant le Code Da Vinci sur Google. 238 millions de personnes qui visitent pour avoir de l'information sur ce site. Certaines personnes diraient, comment ça? Pourquoi une église, un pasteur, habituellement, quelqu'un m'écrivait cette semaine, et c'était encourageant, quelqu'un d'église qui m'écrivait avec beaucoup de... c'était très stimulant, mais qui me disait, pendant des années, moi, j'étais à l'église et on parlait jamais des choses qui étaient à l'extérieur. J'entendais jamais quoi que ce soit qui avait rapport avec l'actualité. Pourquoi est-ce que aujourd'hui nous ressentons le besoin d'adresser le Code Da Vinci? Jésus a prophétisé il y a 2000 ans qu'à la fin des temps, ce serait une des marques des sociétés modernes, qu'il y aurait toutes sortes d'efforts pour présenter d'autres Christ, d'autres versions de qui Jésus est, d'autres opinions sur qui Jésus est. Et Jésus a lui-même posé la question prophétiquement, il y a 2000 ans dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'il a dit, « Qui les hommes disent-ils que je suis? » Qui les hommes disent-ils que je suis? Et l'apôtre Pierre, saisir et exprimer ce qui est notre vision avec le message de ce matin, le message de ce matin, la semaine prochaine, lorsqu'il dit, voici mon objectif ce matin, mais enraciner, purifier ou fortifier dans vos cœurs Christ votre Seigneur. Notre objectif est que chaque chrétien puisse ressortir de ces messages avec une foi encore plus enracinée en la personne de Christ dans son cœur. Mais aussi, non seulement enraciner les chrétiens, mais exposer à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, exposer et aussi établir l'espérance qu'il y a en Christ. La parole de Dieu nous appelle à toujours être prêt à vous défendre contre quiconque vous demande d'expliquer les raisons de l'espérance qui est en vous. Là, quelqu'un dirait, pourquoi un message sur un film, le Code Da Vinci, ou sur le livre, le Code Da Vinci? C'est dans l'esprit de l'apôtre Paul, qui dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, se retrouve à Athènes, dans la ville d'Athènes, et il est là, debout, au milieu de la place publique. Combien croient qu'une des œuvres de l'esprit, c'est de sortir l'Église des murs et d'être sur la place publique, adressant ce qui prend place avec la vérité de l'Évangile? Paul, debout, au milieu de la place publique, citant, et c'est intéressant dans Actes 17, citant leurs auteurs, leurs poètes, observant ce qui influence le monde de son époque, et pourtant, il annonce le Dieu qui a fait le monde et créé les hommes, qui désire que vous puissiez le trouver, car il est tout près de chacun d'entre nous. Ce matin, j'aimerais pouvoir, j'espère, inspirer les croyants, les fortifier face aux accusations du Code Da Vinci. J'aimerais illuminer ceux qui ne connaissent pas grand-chose là-dessus, qui ont seulement vu le Code Da Vinci, mais j'aimerais aussi vous inspirer et vous faire réaliser que le Seigneur vous invite à un Seigneur qui est tout près de chacun d'entre nous. Acte 17 est notre cœur, notre message, et c'est intéressant pour moi de voir l'apôtre Paul qui se retrouve sur la place publique. Et quelle grâce, et je vous remercie pour vos prières, quelle grâce, quel privilège, quelle responsabilité, quelle opportunité à travers le livre « Les mensonges du Code Da Vinci », Dieu nous donne de se retrouver sur la place publique. Dans les dernières semaines, la dernière 7-8 jours, je me suis retrouvé avec Gilles Proulx, sur les ondes de 98.5 et lundi dernier, merci pour vos prières, avec Jacques Fabi pendant 1h30 à répondre à les appels des gens et ça s'est extrêmement bien passé pour parler du Code Da Vinci et on me dit que les deux émissions ensemble, c'est 150 000 personnes qui ont entendu la présentation de l'Évangile, la présentation du message de Christ face aux mensonges du Code Da Vinci. Sur la place publique, les journaux montréalais parlent du livre que nous avons, que j'ai écrit, que nous avons eu la grâce de présenter à la province de Québec, la Gazette qui disait au moins un membre du clergé, c'était le 13 mai, au moins un membre du clergé protestant québécois, Claude Houd, pasteur de l'Église Nouvelle-Vie de Longueuil, a répliqué, publiant un livre intitulé « Les mensonges du Code Da Vinci ». Le Devoir a parlé du livre aussi. En s'en prenant au dogme, et c'est Jean-Claude Leclerc dans Le Devoir qui écrit, en s'en prenant au dogme fondateur du christianisme, le Da Vinci Code heurte aussi les croyances d'autres confessions, notamment les églises évangéliques. Certains vont peut-être appeler au boycottage du film, d'autres ont constitué elles aussi un dossier étoffé sur les nombreuses failles historiques du livre de Brown. Ainsi, le pasteur Claude Houd de l'Église Nouvelle-Vie de Longueuil vient de publier « Les mensonges du Code Da Vinci ». On y trouve ce mot du vrai Léonard Da Vinci, c'est la vérité qui doit nourrir les grands esprits, qui dit mieux. Et le Journal de Montréal nous a défiés. Il y a un article extrêmement intéressant de Jean-Guy Dubuc dans le Journal de Montréal qui défie l'Église chrétienne à sortir de son trou, qui défie l'Église chrétienne à adresser, et j'ai été, ça m'arrive pas souvent d'être édifié en lisant le Journal de Montréal, mais ça peut arriver. Et ça m'est arrivé cette semaine lorsque j'ai lu ceci. L'Église de son côté souffrira-t-elle du succès escompté du film? Oui, si elle cesse de réagir. Non, si elle en profite pour faire connaître la vraie histoire, qui ne devrait pas avoir besoin de récits fantasmagoriques pour prouver son authenticité et son intérêt. Normalement, la vérité devrait pouvoir confondre la fantaisie si on sait la dire. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons proclamer la vérité du Seigneur. Le Code Da Vinci est un roman pas comme les autres. Je crois que c'est une des clés de son succès phénoménal, inégalé, du nom, de l'intérêt de millions de personnes. C'est que c'est un roman de fiction qui commence, et c'est moi, j'ai lu beaucoup de romans dans ma vie, mais je crois, c'est la première fois que je vois un roman ici qui, à la première page du roman, se donne un air d'authenticité. Le roman déclare et proclame être fondé sur des faits véridiques. Le Code Da Vinci commence par cette déclaration. Les faits, toutes les descriptions de monuments, d'œuvres d'art et de documents et de rituels secrets évoqués sont véridiques. Alors, c'est un roman de fiction, mais qui dit à tous ceux qui le lisent en partant, tout ce que tu vas voir comme fait, comme symbole, comme information dans le livre est vrai. Et le roman poursuit par la suite, si vous n'avez pas ni lu le roman, ni vu le film, fait des déclarations absolument hallucinantes qui défient 2000 ans d'histoire. Dans le Code Da Vinci, Jésus n'est pas ressuscité. Il n'était pas considéré fils de Dieu par ses disciples. Jésus s'est marié avec Marie-Madeleine. Il a eu un enfant avec elle. C'est elle qui devait être la fondatrice de l'Église. Et l'Église a caché le fait que Marie-Madeleine est la vraie fondatrice de l'Église. Et l'Église, depuis des siècles, dans le roman Da Vinci, l'Église, depuis des siècles, elle est meurtrière, elle est criminelle, elle est antifemme, et elle est la source de toutes les douleurs et les maux qu'il y a sur la planète. Et Brown commence son... Et des milliers de personnes lisent le roman en pensant y lire un roman qui est historique. Il l'a pas seulement fait sur la page du livre, mais il l'a fait aussi dans des interviews qu'il a données. C'est assez saisissant que Dan Brown, l'auteur, donne très peu d'interviews. Depuis que le livre est sorti, quelques interviews, il refuse toujours, systématiquement, toutes les invitations d'universités, d'émissions d'information de télévision qui cherchent à faire un débat avec lui, qui cherchent à lui montrer, avec les faits, les erreurs grossières de son roman. Il refuse toute interview, si ce n'est de temps en temps, pour continuer avec sa mantra que son livre est fondé sur des faits véridiques. Et beaucoup des multitudes de personnes qui ont acheté le livre, qui ne connaissent ni la foi, ni les évangiles, ni l'histoire, ni voient que du feu. Dans un événement, dans une interview devant des dizaines de millions de personnes à NBC, l'intervieweur Matt Lauer lui a demandé « Quelle proportion de votre livre est basée sur la réalité, sur des événements qui se sont réellement produits? » Et Dan Brown répond « Absolument tout le livre, dans ses moindres détails. Le personnage de Robert Langdon, qui est le héros du livre et du film, est bien sûr fictif, dit Brown, mais toutes les informations sur l'art, l'architecture, les rituels secrets sont de vrais fait historique. Il dit la même chose et va même plus loin dans une interview qui a été lue par des millions sur Internet dans un site qui s'appelle BookPage. Un des aspects sur lequel je travaille le plus, dit Brown, est d'insérer et de communiquer énormément d'informations dans mes livres. Je veux que les lecteurs apprennent et découvrent beaucoup de faits qui leur étaient inconnus. Lorsque vous terminerez ce livre, que vous le vouliez ou non, que vous le réalisiez ou non, vous aurez appris et découvert une tonne de choses. Et beaucoup de gens sont pris au jeu. Beaucoup de gens sont pris au piège. Beaucoup de gens qui n'ont jamais lu les évangiles vont... La seule chose qu'ils vont connaître, c'est ce livre mensonger sur les évangiles plus que les évangiles eux-mêmes. J'ai bondi, j'étais dans l'avion de retour de quelques jours de vacances la semaine dernière lorsque j'ai lu un éditorial de Nathalie Petrovski dans la presse qui, elle, pensait avoir découvrir de grandes vérités. Elle parlait du Code da Vinci et elle dit, « Grâce au Code da Vinci, des jeunes vont s'initier à une culture religieuse. Le saviez-vous, vous, que l'Évangile est une sorte de livre blanc commandé par l'empereur Constantin pour mettre fin aux guerres de religion, ce qui est entièrement faux? Moi, je ne le savais pas. Tout comme j'ignorais que la plupart des textes de l'Évangile ont été écrits environ 300 ans après la mort de Jésus, ce qui n'est pas vrai non plus. Tout cela pour dire que ce film, qui n'est pas le chef-d'œuvre du siècle, ni même un très bon film, vaut malgré tout le détour. Pour le divertissement et pour le cours de religion 101. Pour les magnifiques prises de vue du Louvre et pour le plaisir, c'est Nathalie Petrovski qui parle, pour le plaisir d'imaginer que les descendants de Jésus et de Marie-Madeleine sont peut-être assis au cinéma derrière nous. Il y a toute cette pensée que des millions vont gober et qui est pourtant, il y a les multitudes qui ont acheté le livre et il y a toute la communauté, qu'elle soit théologique, scientifique, historique, archéologique, qui de l'autre côté va s'y faire écrire à quel point le livre est faux. La communauté universitaire internationale est implacable dans sa critique de l'aspect historique ou factuel du Code da Vinci. La docteure Sandra Mizell, qui est professeure d'histoire de l'Université de l'Illinois, dit « Le Code da Vinci est tellement bourré d'erreurs que le lecteur éduqué applaudit lorsque Brown trébuche malgré lui sur une vérité. » Il y a des dizaines d'experts qui disent la même chose, comme Darrell L. Buck, PhD, en recherche du Nouveau Testament, et aussi le docteur Francis Maloney, qui détient un double doctorat en philosophie et études religieuses, deux professeurs d'université et sommité en histoire de l'Église, qui, dans leurs ouvrages sur le Code da Vinci, déclarent pouvoir citer des centaines d'historiens, de linguistes, de théologiens, d'archéologues et d'experts en sciences religieuses, possédant tous un doctorat, qui dénoncent comme ridicule, sans fondement et pure fiction, les affirmations du Code da Vinci sur les origines des évangiles. Le National Geographic, une organisation d'information extrêmement sérieuse, a fait un documentaire de plusieurs heures télévisées où on y entend la citation suivante, mot à mot. Les théories du Code, la conclusion suivante. Les théories du Code da Vinci sur l'œuvre da Vincienne, ainsi que sur une multitude de sujets, tels que le prieuré de Sion, le mariage de Jésus et de Marie-Madeleine, les évangiles cachés, et même le récit narratif, pourtant abondamment documenté de l'histoire des fondations du christianisme, est malhonnête intellectuellement. Ça, c'est le National Geographic. Malhonnête intellectuellement et une fabulation déplorable d'un point de vue de la véracité factuelle. J'aimerais vous dire que de prendre ou de regarder ou de lire le Code da Vinci comme un cours d'histoire de religion, si vous pensez que vous allez apprendre quelque chose, c'est pareil comme si vous voulez découvrir l'histoire de l'Empire romain en lisant Astérix et Obélix. Ou si vous décidez d'apprendre la riche et extraordinaire histoire du Québec en écoutant Elvis Graton. C'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. C'est comme ce qui est fait avec des personnages comme Jésus-Christ et l'histoire et les pères de l'Église et toutes sortes de personnages qui ont vraiment vécu à travers l'histoire. Et tout aussi fou et aussi nocif et aussi dangereux que si on cherchait à enseigner, si quelqu'un prenait l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, de l'Holocauste et des 6 millions de Juifs qui ont été exterminés, et parsemerait son récit avec des personnages historiques, avec des événements, avec certaines choses qu'on sait qui sont vraiment arrivées, un petit peu de vérité ou de fait, mais en arriverait à la terrifiante conclusion que finalement, l'Holocauste n'a jamais eu lieu, que c'est une fabulation des Juifs pour s'attirer la sympathie. C'est comme si quelqu'un prendrait la vie de Mère Teresa et on lui doit le respect de traiter sa contribution à l'histoire avec véracité et avec sérieux. Mais c'est comme si quelqu'un prendrait la vie de Mère Teresa et dirait, Mère Teresa, finalement, je fais un roman. C'est un roman de fiction, mais sur la première page, il est écrit, tous les faits de ce roman sont avérés, sont véridiques. Et dans le roman, vous avez une histoire pleine de rebondissements où finalement, Mère Teresa était mariée, avait des enfants, ramassait l'argent, pas pour les pauvres, mais pour avoir une belle vie sur la Riviera française, etc., etc., etc. Combien sont d'accord que Mère Teresa a droit à ce que sa vie soit racontée et regardée avec le respect de sa contribution? Et combien croient que Jésus-Christ, le Sauveur du monde, a droit au même respect, à la même authenticité et véracité? Dans le message de ce matin et de la semaine prochaine, on va couvrir à peu près une vingtaine de pages, 20-25 pages d'un livre de 200 pages que j'ai écrit là-dessus. C'est impossible de faire autrement en format conférence. Et on adresse cependant dans le livre plusieurs des grands mensonges que bien après que le film va être passé, ce sont des pensées qui sont très dominantes, très présentes, avec lesquelles nous sommes bombardés comme chrétiens dans le monde qui nous entoure. Et dans le livre, il y a des chapitres qui adressent par exemple des mensonges sur Jésus, l'Église et la science. Le livre, le Code da Vinci, place l'Église dans un coin avec ignorance, comme si d'un côté il y a les croyants et de l'autre côté il y a la science et qu'ils sont ennemis. Il y a une scientifique chrétienne qui a contribué au livre avec un chapitre, Dr. Stéphanie Rieder, une docteure en biochimie qui a contribué un chapitre sur la science et la foi. Il y a des mensonges sur l'Église et la femme. Bien après Da Vinci, vous avez rencontré des gens bien avant qui ont cette pensée terrible que Dieu, la Bible et l'Église est contre la femme. Il y a un chapitre entier dans le livre pour confronter ce mensonge. Il y a un chapitre écrit par Denis Morissette. Parce qu'une des choses les plus enrageantes, les plus tristes du livre, c'est qu'elle peint l'Église chrétienne à travers toute l'histoire comme étant seulement despotique, méchante, comme la source de toutes les guerres et de tous les mâles, et ignore complètement toute la contribution de l'Église chrétienne dans l'histoire. Et j'ai écrit, en collaboration avec le pasteur Denis Morissette, un chapitre à cet égard qui présente l'Église comme une force pour le bien dans le monde. Et il y a un chapitre aussi, et ça c'est la semaine prochaine, je prie que vous soyez là, que vous invitiez quelqu'un. La semaine prochaine va probablement être un des messages les plus importants de l'année, parce que la semaine prochaine, nous allons confronter ensemble un des mensonges du Code da Vinci sur la Bible. Le Code da Vinci déclare que les évangiles que nous avons ne sont pas des vrais évangiles, qu'il y a eu d'autres évangiles, que ceux-là ont été choisis parce qu'ils appuyaient la position de l'Église qui voulait écraser la femme et que ces évangiles ne sont pas dignes de confiance. Et il y a beaucoup de chrétiens qui savent, qui croient que les évangiles sont vrais dans leur cœur, mais n'ont aucune idée comment les défendre. Aucune idée pourquoi nous croyons que... Parce que la position chrétienne, c'est que les évangiles et la Bible que nous avons ne sont pas un livre d'histoire parmi d'autres, un livre de morale parmi d'autres, un livre de bonne philosophie parmi d'autres. Nous croyons que c'est la révélation de Dieu, que c'est la parole de Dieu et que ces évangiles ont été surnaturellement inspirés. Et la semaine prochaine, nous allons voir pourquoi ensemble. Je prie que vous soyez là, que vous ameniez vos enfants, vos familles, parce que je crois que les croyants vont sortir fortifiés, vont sortir avec une plus grande confiance encore et vont sortir surtout équipés à savoir comment donner une réponse pour l'espoir qui est en nous. Tournez-vous vers la personne à côté de vous et dites-lui, tu devrais être capable de me dire pourquoi tu crois les évangiles. Dites ça à la personne près de vous. Ce qu'on va faire ce matin, on va prendre quelques-uns, on va y aller directement avec, on va y aller systématiquement, fausseté du Code da Vinci et les faits. Mensonge fait. On va traverser quelques-unes et continuer la semaine prochaine. Et j'aimerais commencer cette portion-là en plongée dedans avec cette phrase. Extrico, subjectio, code verum, ero, evidence. Êtes-vous béni? Dites amen par la foi. Dites à la personne près de vous, je suis pas sûr que je suis d'accord. La phrase, c'est à peu près tout ce qui me reste de mon cours de latin de secondaire 1 au Collège jésuitiste. Mais ça veut simplement dire dénouer un sujet et la vérité sera évidente. Et le livre des Proverbes dans la Bible nous donne une promesse, nous offre la même possibilité. Les Proverbes dans la Bible disent « La langue qui ment ne dure qu'un moment, mais les lèvres qui disent la vérité sont établies et ce qu'elles disent demeurera pour toujours. » Vous pouvez vous dire « Amen ». Nous allons voir ensemble, c'est très important, que vous allez voir sur des petits faits et des grands faits, sur toutes sortes de choses. Vous allez voir ce qui est traite de l'histoire, de l'actualité, de la théologie, de toutes sortes de sujets, que la recherche du livre Le Code da Vinci est minable, elle est malhonnête et elle est mensongère. Et c'est important parce que si Dan Brown ne peut pas avoir des faits sur des choses qui sont tellement, pour certains simples, qui sont tellement évidentes et indiscutables, il n'a pas l'autorité, il n'a pas la véracité, il n'a pas la capacité d'être cru alors qu'il essaie de mettre en question 2000 ans d'histoire. On regarde des petits faits et des grands faits, toutes sortes de choses qui sont dans le livre, qui sont dans le film. J'ai vu le film et le film est une copie calquée du livre. C'est presque mot à mot ce qu'il y a dans le livre. Quelques faussetés et les faits. Fausseté numéro un, le code Da Vinci sur la planète Vénus. La pensée du code Da Vinci, c'est que la pensée de Dan Brown, c'est que Dieu, la déité féminine doit être adorée, que l'Église a essayé de cacher cela. Il y a toutes sortes de faits qu'il va chercher un peu partout pour essayer d'élever la divinité féminine. Il dit par exemple, la planète Vénus trace un pentacle parfait à travers le ciel tous les 8 ans. C'est en l'honneur de la déesse Vénus que les Grecs ont créé les Olympiques. De plus, les Grecs avaient décidé que l'étoile à 5 branches serait le sceau officiel des Jeux en l'honneur de la puissante déesse. Mais cela a été changé au dernier moment pour les 5 anneaux qu'on connaît, les anneaux olympiques. Brown cherche à établir la déesse divine, mais ses exemples et arguments sont ridicules. Les faits, les Olympiques furent créés en l'honneur du dieu grec Zeus et pas à Vénus. Ils étaient présentés dans des cycles de 4 ans et non de 8, deuxième erreur. Les Grecs n'ont jamais décidé que le pentacle serait le sceau officiel des Olympiques. Ils n'utilisaient pas non plus les 5 anneaux qui sont associés aux jeux modernes. Le sigle qui a été créé, qu'on connaît, en 1913, par le fondateur du Comité international olympique, le baron Pierre de Coubertin. Les 5 anneaux représentent les 5 continents participants aux Olympiques dans cette conception géographique européenne. L'Amérique du Nord et du Sud sont un seul et même continent. La planète Vénus ne trace, comme Brown dit, contrairement à ce que Brown dit, la planète Vénus ne trace absolument pas un pentacle parfait représentant supposément la suprématie d'une déesse, mais plutôt, et ça les astronomes nous disent, mais plutôt un mouvement en zigzag du haut vers le bas, comme la ligne qui apparaît sur le test du polygraphe, détecteur de mensonges, lorsque quelqu'un comme Dan Brown raconte des histoires. Il y a des centaines de faussetés et d'erreurs, de faits, de dates, de lieux, linguistiques, théologiques, historiques. Et c'est où Brown est le plus faible factuellement qu'il fait parfois ses plus grandes, ses déclarations choc les plus fracassantes, alors que les faits sont tellement clairs contre ce qu'il dit. Par exemple, il dit, à propos du mot « Shekinah » et du peuple de Dieu, le peuple juif de l'Ancien Testament et dans l'histoire, il dit dans le code Da Vinci, c'est dans le film également, « La tradition juive promulguait des célébrations de rituels sexuels dans le temple, rien de moins. » Les Juifs croyaient que le lieu très saint dans le temple de Salomon était hôte non seulement pour Dieu, mais pour sa puissante égalité féminine, la déesse Shekinah. L'Association des rabbins d'Europe et d'Amérique du Nord a boycotté le livre et le film juste à cause de cette phrase-là, qui vient en contradiction avec toute l'histoire juive. Et les faits, c'est qu'il n'y a absolument aucune preuve historique que des rituels sexuels avaient lieu dans le temple. Au contraire, les écritures que nous avons de l'Ancien Testament, la plus vieille, ancienne de la Torah, du Pentateuque, de la tradition juive, condamnaient ces pratiques de tout leur poids. Ces rituels à caractère sexuel étaient présents dans les pratiques idolâtres et dépravées des nations autour d'Israël, ou bien lorsque les envahisseurs profanaient le temple. Le nom Shekinah n'est absolument pas celui d'une déesse, comme Brown le prétend, mais l'amalgame de 2 mots hébreux qui signifient tout simplement « demeurer ». Il est utilisé dans les Écritures pour indiquer la présence de Dieu ou la gloire de Dieu qui demeurait parmi le peuple selon la promesse qui avait été faite par Dieu lui-même. Cela ne veut pas dire que le temple limitait la présence de Dieu, mais plutôt que c'était un endroit où Dieu désirait demeurer et où il souhaitait rencontrer le peuple. La version de Brown, c'est qu'il y avait dans l'Ancien Testament des orgies sexuelles dans le temple au nom d'une déesse qui s'appelle Shekinah. La vérité, c'est que Shekinah veut simplement dire la promesse de Dieu de demeurer. Et c'est quelque chose qui est pas seulement dans le temple de l'Ancien Testament. En 2006, aujourd'hui, nous avons l'assurance que lorsque nous sommes réunis en son nom, Dieu demeure. Dieu est là. Dieu est présent. Et même dire à des gens qui seraient ici, qui ont été déçus ou qui ont été blessés par la religion ou blessés même par l'Église, que lorsque l'Église nous a trahis, lorsque l'Église a fui, Dieu, lui, Shekinah, sa gloire demeure toujours. Il ne nous lâche jamais et son amour se renouvelle à chaque jour. Quelqu'un devrait dire amen pour la gloire de Dieu, la présence de Dieu qui demeure. Le code Da Vinci a une pensée qui traverse tout le livre. Et tous les mensonges ont toujours un agenda. Tous les mensonges, c'est toujours pour essayer de bâtir l'argument que l'Église est meurtrière, que l'Église a fait seulement des choses terribles à travers l'histoire. Un agenda anti-Bible, anti-Christ, anti-Église, anti-Jésus, anti-Église moderne. Le Code Da Vinci dit par exemple que durant 300 ans de chasse aux sorcières, l'Église a brûlé plus de 5 millions de femmes. Les faits historiques, et je peux vous donner 30 historiens et personne, il n'y a pas du tout de contentieux. Il n'y a pas de débat là-dessus. Les véritables chiffres sont trouvés autour de entre 40 et 50 000 victimes. Il y a eu 40 à 50 000 victimes de ce qui a été appelé la chasse aux sorcières en 400 ans, soit une centaine par année en moyenne dans le monde entier. C'est quelque chose qui est terrible, mais c'est pas 5 millions. C'est 50 000 sur 400 ans. C'est aussi important de savoir que c'était pas seulement des femmes. Contrairement à la pensée brownesque que l'Église est anti-femme et seulement anti-femme, que pendant la chasse aux sorcières, tous les historiens vont vous dire qu'il y a eu le quart des victimes qui étaient même des hommes. Le professeur Adrian Jones, une sommité dans le domaine de l'histoire, de l'Inquisition, des croisades et doyen de la Faculté de recherche en études internationales de Mexico, cite de multiples sources historiques qui démontrent que la plupart des accusations de sorcellerie trouvaient leurs racines dans des conflits même entre femmes. Les mots de la docteure, une femme, Robin Briggs, auteure du livre « Sorcières » et voisine contexte social et culturel de la chasse aux sorcières en Europe, confirme cela. Un grand nombre des accusations étaient portées par des femmes contre d'autres femmes, dit-elle. La chasse aux sorcières était souvent une œuvre terrible d'accusations par les femmes d'un même village, conduisant souvent à l'exécution de l'accusé pour des fautes et des conflits locaux. On n'est pas en train de dire que la chasse aux sorcières est une belle période de l'histoire de l'Église catholique, mais il y a une immense différence factuelle entre 50 000 personnes sur 400 ans et 5 millions. C'est comme si ceux qui ont fait le film, il y a un film en ce moment qui s'appelle Un dimanche à Kigali, qui est un film qui parle de ce qui a pris place au Rwanda. C'est un fiction, c'est un roman, mais qui est basé sur des faits. C'est comme si le film tout à coup disait que 100 millions de personnes qui ont été tuées au Rwanda au lieu de 1 million qui se trompaient de 100 fois plus et qui en plus arriverait à une conclusion qui est contraire à tout ce que l'histoire a raconté, que finalement, il y a peut-être pas, c'est pas du tout ce qu'on pense qui est arrivé. Il n'y aurait aucune crédibilité à tout le reste du film qui serait accordé. Lorsqu'on regarde au cas de Da Vinci sur toutes sortes de faits, les affirmations qui sont historiques qui sont là, elles trouvent preneur seulement parmi un public qui n'a aucune information, aucune connaissance du sujet. Par exemple, sur le nom de Dieu, encore une fois, l'agenda perpétuel essayer de féminiser Dieu et d'écraser l'Église. Le nom original de Dieu, l'expression juive J-H-V-H, nom sacré de Dieu, ça c'est Brown qui parle, est en fait dérivé de Jéhovah, qui est une union physique androgyne entre le masculin Jah et le nom préhébraïque pour Eb Abbas, incluant la dimension féminine de la déité. Dans la pensée de Brown, il y avait Jéhovah et par la suite c'est JHVH, puis c'était les deux noms qui deviennent une divinité féminine. Comme le plus néophyte des étudiants de l'Ancien Testament le sait, entre le nom Jéhovah et JHVH, c'est JHVH qui est le plus ancien. C'est important pour des nouveaux chrétiens de réaliser que l'hébreu de l'Ancien Testament ne comportait pas de voyelles. Que lorsqu'on disait Jéhovah, l'Ancien Testament, c'était JHVH. Et Jéhovah est un mot qui a été composé par des scribes juifs autour des années 1500 à partir, c'est très simple, des mots JHVH et Adonai qui veut dire mon Seigneur. Et l'union de JHVH et d'Adonai constitue le mot Jéhovah et n'a absolument rien à voir avec une quelconque union physique androgyne de quoi que ce soit. Toujours dans le même élan, Brown va prendre des faits comme les manuscrits de la Mer Morte. Il y a des manuscrits qui ont été trouvés par des archéologues au milieu du siècle, du dernier siècle. Et lui, les utilise et tord tout ce qui est arrivé pour essayer de dire que ça, ces manuscrits-là viennent contrecarrer la Bible. Et le père Da Vinci dit, certains des évangiles que Constantin a essayé de détruire afin d'étouffer le message de la déité féminine de Marie-Madeleine comme femme de Jésus, et Constantin n'a pas essayé de détruire aucun évangile, était seul, comme femme de Jésus et seul véritable leader de l'Église, ont réussi à survivre. Ça, c'est Brown qui parle. Les manuscrits de la Mer Morte ont été découverts dans les années 50. Écoutez bien les faits. La raison pour laquelle Brown cite les évangiles des manuscrits de la Mer Morte est un mystère. C'est tellement fort au niveau ignorance parce que les parchemins de la Mer Morte ne contenait absolument aucun évangile. Les experts sont entièrement unanimes là-dessus. Les manuscrits datent d'une période de l'Antiquité juive, des centaines d'années avant Christ, et contiennent, entre autres, des commentaires sur l'Ancien Testament, des textes séculiers, des portions de livres bibliques juifs de l'Ancien Testament. Le groupe des juifs mystiques de Qumran, les Esséniens, qui a écrit ou préservé ces parchemins, n'avait carrément rien à voir avec Christ ou la période du christianisme. Finalement, il y a une unanimité historique indiquant que les documents trouvés à Nag Hammadi ne sont catégoriquement, pas, comme le Code Da Vinci le prétend, les plus anciens documents chrétiens, mais qu'ils sont clairement précédés par plusieurs évangiles reconnus. Dans un seul paragraphe, tu trouves 5 erreurs majeures et absolument aucune base factuelle. La pensée fondamentale du Code Da Vinci, c'est Marie-Madeleine. C'est la pensée que c'est elle qui est le Saint Graal, c'est elle qui a été mariée à Jésus et c'est elle qui est la mère de l'Église. Et on a essayé de cacher ça à travers les siècles. Et le Code Da Vinci dit par exemple, un des thèmes les plus troublants, revenant constamment dans les évangiles gnostiques, est le mariage de Marie-Madeleine et de Jésus-Christ. C'est, dans le film, c'est encore plus présent, ça devient la trame principale du film. Les faits. Absolument aucun des évangiles gnostiques ne contient quelque référence que ce soit à un mariage entre Marie-Madeleine et Jésus. Même le document, un document qui a été retrouvé des centaines d'années plus tard, ayant le nom de Marie-Madeleine, même le document de Marie-Madeleine est complètement silencieux à ce sujet. En décembre 45, près d'un village égyptien, ça c'est vrai, appelé Nag Hammadi, un paysan a trouvé enfoui dans le sol des textes et des manuscrits anciens. Les documents dataient du 4e siècle et comprenaient des écrits religieux, des lettres, des poèmes, des fables, des mythes aux connotations mystiques que certains archéologues ont appelés les évangiles secrets. Plusieurs de ces textes sont un mélange de concepts judéo-chrétiens et de mythologie mystique. Ils sont ésotériques, mystiques. Et ils ont des textes là-dedans qui s'intitulent, par exemple, « Le tonnerre et la pensée parfaite », « Le témoignage de la vérité, de la sagesse et du serpent ». Aucun de ces écrits ne font la moindre mention d'un soi-disant mariage entre Marie-Madeleine et Jésus. Le cas da Vinci dit, l'évangile de Philippe dit que la compagne du Sauveur était Marie-Madeleine. C'est le cœur du film. Jésus l'a aimé plus que tous les disciples et avait l'habitude de l'embrasser sur la bouche. Les autres disciples en étaient offensés, désapprouvaient cette pratique et lui disaient, « Pourquoi l'aimes-tu-elle plus que nous? » Comme tous les experts en araméen vous le diront, le mot « compagne » à cette époque voulait littéralement dire « épouse ». Écoutez bien les faits. Pour commencer, l'évangile de Philippe n'a jamais été écrit en araméen, n'a même pas le bon langage, mais en langue copte, qui est une forme d'égyptien antique. Il s'agit même de la traduction d'un texte plus ancien en grec et non en araméen. Par ailleurs, le professeur d'hébreu et du langage de l'Antiquité, Dr. Craig Bloomberg, du Denver Seminary, nous assure qu'aucun mot, contrairement à ce que Brown dit, aucun mot araméen ou même hébreu pour compagne ne pouvait signifier épouse. Le Dr. Erwin Lutzer lui ajoute, le document de Philippe date approximativement du 3e siècle, 300 ans plus tard, soit 200 ans après le temps de Christ. Philippe n'était pas du tout un témoin oculaire. Ce n'est pas le Philippe qu'on connaît dans les Écritures. De plus, de nombreux experts vous diront que la qualité du papyrus, le papier sur lequel le document a été trouvé, a été écrit, était tellement médiocre que plusieurs mots sont manquants. Ce que le texte dit vraiment, c'est Jésus l'embrassait souvent. Et plusieurs ajoutent des mots comme sur le front, sur la joue, sur la main ou sur la bouche. En résumé, Brown se base sur un texte mystique bizarre et incomplet, écrit des centaines d'années après l'époque de Christ et dont la fiabilité était complètement contestée à l'époque même de son écriture. C'est avec cela qu'il contredit 200 ans d'histoire, de recherches archéologiques et de documents factuels qui prouvent que Jésus n'a jamais été marié à Marie-Madeleine. Alors que nous concluons sur ce sujet, j'aimerais confronter simplement, fait historique à l'appui, une des pensées et révélations les plus spectaculaires et intrigantes du Code da Vinci. À la page 245 du livre et dans le film, nous trouvons ces mots. Le mariage de Jésus et de Marie-Madeleine fait partie des écrits, parchemins et manuscrits de l'histoire. Et plein de Québécois vont voir ça et dire, ah bon, il y a plein de documents qui attestaient à cela. Mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est de quelle histoire parle-t-il? Les évangiles écrits par les témoins oculaires, ainsi que les textes les plus proches de la véritable histoire de Christ, ne font pas la moindre suggestion que Jésus a été marié ou qu'il a eu une liaison amoureuse. Le professeur Ben Widdrington, le troisième, qui est un PhD, Université de Durham en Angleterre, professeur du Nouveau Testament, c'est un auteur prolifique. Il a écrit un classique qui s'appelle « La femme et la genèse du christianisme » qui est enseigné dans plusieurs universités. Et lui déclare sans embâche pouvoir nommer plus d'une centaine d'historiens et théologiens des plus fiables, reconnus et respectés dans le monde, qui enseignent selon l'histoire et l'archéologie qu'il n'y a absolument aucune trace de la moindre indication d'un mariage entre Jésus et Marie-Madeleine. Sur quoi les preuves de Dan Brown peuvent-elles bien reposer? Dans le livre et dans le film, son expert s'appelle le professeur Tibbing, et l'expert suprême dans le récit de Brown et dans le film cite des portions de textes gnostiques et mystiques écrits entre 100 et 300 ans après que l'aient été les véritables évangiles. Ces textes sont mystiques, ésotériques et notoires pour leurs salmigondices, pseudo-religieux, carrément bizarres, comme l'évangile de Philippe. Si je demandais ici combien d'entre vous avaient lu ce texte-là de l'évangile de Philippe, la majorité des gens ont jamais vu c'était quoi. Tu vas voir le film, ça dit, cet évangile-là proclame, tu penses que c'est Philippe qui a marché avec Jésus, etc. C'est écrit 300 ans plus tard, et ces textes-là existent. Le dit évangile de Philippe est totalement rejeté et ignoré par les historiens sérieux depuis des siècles. Juste pour vous donner une idée, vous avez besoin de comprendre le nombre de textes coptes et gnostiques qui existaient, qui étaient carrément bizarres. J'aimerais vous donner des vrais extraits, si vous allez dans une librairie que vous réussissez à trouver le document, l'évangile de Philippe, vous l'achetez. Voici, il est au complet sur Internet, voici quelques perles de sagesse. C'est là-dessus que Brown se fie pour dire, 2000 ans d'histoire, on rejette ça, on y va avec ce texte-ci. Si vous lisez tout le texte au complet, voici ce que notre ami Philippe dit. Si vous appelez Philippe, soyez bénis, c'est un autre Philippe. Voici Philippe, voici le grand sage. Il y a beaucoup d'animaux qui existent dans le monde qui sont sous forme humaine. Regardez personne. Un autre texte de Philippe. L'hiver est le monde. L'été est la sphère. C'est mal de prier l'hiver. Combien d'entre vous Québécois croyez qu'il faut prier l'hiver, l'été, le printemps et l'automne? On continue avec Philippe. Le bien teint la vérité, change les couleurs, dissout les choses et se coule en elles. Ainsi, pour des choses, Dieu s'est teint. Ses teintures sont impérissables à cause de ses couleurs. Ce que Dieu trempe, il le trempe dans l'eau. Combien croient que Philippe a des problèmes sérieux? Combien croient qu'il en fumait du fort? Allez, dites amen, dites quelque chose. Si vous êtes ici avec moi ce matin, je vous laisse un peu de temps pour digérer toute cette sagesse. Le plus aberrant, ceux qui vont l'écouter par la radio ou Internet, le plus aberrant, c'est que même ce texte fou, ce texte abstrait et ridicule, continue ainsi, chapitre après chapitre, changeant brusquement de sujet, débitant des âneries à une fréquence assez hallucinante. Mais il ne parle jamais d'un mariage entre Jésus et Marie-Madeleine. C'est tout ce que Brown peut trouver, mais non, n'en parle jamais spécifiquement. Il est écrit que Jésus l'embrassait souvent entre ses teintures et le reste que je vous ai lu. Que Jésus l'embrassait souvent sur, puis il y a un espace vide dans le texte. Brown, il place le mot bouche, mais des experts en interprétation suggèrent les mots visage, main ou joue, comme c'était la coutume de l'époque. L'anecdote est écrite plus de 300 ans après les faits par l'incroyable grand sage Philippe, pas celui qui avait côtoyé les disciples, et ne dit de toute façon rien sur le pseudo-mariage de Jésus avec qui que ce soit. D'ailleurs, vous avez le choix entre Philippe et ses adages 300 ans après, ou vous avez le choix entre le témoignage des témoins oculaires qui étaient là et qui, par la suite, suite à la résurrection de Christ, ont vu cette résurrection et ont changé le monde, sont morts martyrs, jamais ne doutant un instant. J'ai le choix entre quelque chose qui a été écrit 300 ans après par un loustique qui a écrit ce que vous avez, où j'ai le choix entre le témoignage vérifié par l'histoire de l'époque et par les évangiles que nous avons. J'espère que vous êtes avec moi. Je veux croire et je me sens sur un rocher lorsque je crois dans les évangiles du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un devrait dire amen. Manquez pas la semaine prochaine, on va spécifier dans les évangiles pourquoi nous croyons au témoignage des évangiles. En conclusion, le docteur Richard Albanese, auteur d'une douzaine de livres, et récipiendaire en 97 du Myers Award pour son étude sur les droits de l'homme en Amérique du Nord enchérie, le Code da Vinci comporte une multitude d'erreurs historiques couvrant une grande variété de sujets. L'architecture d'églises célèbres, le symbolisme religieux, l'Empire romain, l'Israël ancienne, l'histoire et interprétation des grandes mouvances et systèmes de foi mondiaux. À chaque tournant, les supposés faits du Code da Vinci sont contredits par des informations facilement accessibles à toute personne faisant une investigation sincère et raisonnable. Et une de ces, on va continuer la semaine prochaine, mais une de ces accusations les plus terribles et les plus graves de conséquences sont concernant Jésus, fils de Dieu. La pensée du Code da Vinci, c'est que Jésus n'a jamais été considéré fils de Dieu. Il n'est pas ressuscité. C'est une fumisterie. Il a survécu à la croix. Et par la suite, tous les disciples le savaient, les apôtres le savaient, ses contemporains le savaient. Il était marié avec Marie-Madeleine, vivait une vie domestique avec elle. C'est elle qui était supposée être la fondatrice de l'Église. Il n'a jamais été considéré fils de Dieu pendant des centaines d'années. Et finalement, il y a eu un empereur qui s'appelle Constantin en 325 qui, lui, a décidé pour des raisons politiques, pour rallier les gouvernements et des religions, parce que c'était à son avantage. C'est seulement là que, selon Da Vinci, il y a la première fois la pensée a été introduite que Jésus pouvait être divin et qu'il y a dans un conseil qui s'appelait le conseil de Nicée et qu'à ce conseil-là, il y a eu un vote super serré où Constantin a tordu les bras des gens pour les convaincre d'essayer de dire que Jésus était Seigneur. Le Code Da Vinci, c'est une attaque extrêmement pernicieuse qui cherche à réduire Jésus au rang de philosophe ou de bonne personne, égale avec tous les autres. Dans le Code Da Vinci, Tibing déclare « Le mot hérétique est dérivé et trouve son origine dans l'histoire 325 ans après Jésus-Christ, à l'époque de Constantin, et a été utilisé pour condamner tous ceux qui, depuis des siècles, ne considéraient pas Jésus comme le Fils de Dieu. C'est le comité religieux et politique en place sous Constantin qui, après un vote relativement serré, souvenez-vous qui a dit ça, déclara que Jésus serait dorénavant considéré Fils de Dieu. Les faits, c'est que les auteurs du Nouveau Testament utilisaient le terme hérétique déjà des centaines d'années auparavant, même dans les Écritures que nous avons. Plusieurs livres d'enseignement chrétien étaient déjà écrits au IIe siècle, plus de 125 ans avant Constantin, avertissant des faussetés et dangers des hérétiques. Irénée, écrivain chrétien du IIe siècle, avait déjà écrit à son époque une brique de près de 1000 pages intitulée « Contre les hérésies » qui est disponible aujourd'hui. Le vote du Concile de Nicée à l'époque de Constantin ne visait pas à imposer l'idée nouvelle que Jésus était le Fils de Dieu comme le prétend le Code da Vinci. Les paroles de Christ, les actes des apôtres, le témoignage des chrétiens de l'Église du départ, l'Église primitive, les évangiles reconnus, ainsi que les pères de l'Église proclamaient résolument et unanimement et souvent au prix de leur vie la divinité de Christ depuis le commencement. Et cela s'est perpétué à travers les siècles jusqu'à et bien après Constantin, le Concile de Nicée. Vous vous souvenez-vous comment Brown prétend que le vote avait été relativement serré? En fait, l'histoire nous dit en réalité que le vote a été de 300 contre 2. À l'époque, les théologiens et pères de la foi ont réaffirmé ce qui avait toujours été et est encore aujourd'hui la position de l'Église chrétienne. Jésus est le Fils de Dieu ressuscité. Il y a 2000 ans, alors que les musiciens s'approchent, Jésus a posé la question. « Qui les hommes disent-ils que je suis? » Pierre a répondu, « Tu es le Christ. Tu es le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus a dit, « Sur cette révélation, moi je vais bâtir mon Église. » Un groupe de personnes qui avaient tous les empires contre eux, qui n'avaient aucune chance de réussite possible, c'est inexplicable. Il y a des historiens qui s'émerveillent sur des centaines de pages dans leurs livres sur comment un groupe de disciples avec tous ces empires contre eux ont pu ainsi révolutionner le monde. La Bible nous dit que Jésus leur a apparu. Jésus n'est pas un philosophe qui est venu seulement avec un bon message. Parce que la position chrétienne, 2000 ans plus tard, il y a 1 milliard de personnes sur la terre qui croient ceci. Il y a des centaines de millions de personnes qui ont témoignage que le Christ ressuscité a fait quelque chose dans leur vie. La pensée, je l'énonce de la manière la plus simple possible. C'est un message dans les prochaines minutes peut vraiment changer et transformer votre vie. La pensée chrétienne, c'est qu'il y a toutes sortes de bons philosophes à travers l'histoire avec de bonnes pensées, de générosité et de don de soi et de respect des autres. Mais il y a un seul chemin entre Dieu et les hommes et son nom est Jésus-Christ. Et lorsqu'il est venu sur terre, il était fils de Dieu. Il s'est fait humain afin de vivre parmi nous, afin d'être tenté en toutes choses, dans tout ce que nous sommes tentés. Il a subi tout ce que nous avons subi et lui était parfaitement innocent et il est mort sur une croix. Et alors qu'il est mort et qu'il est ressuscité, véritablement mort et véritablement ressuscité, la Bible nous dit que des centaines de témoins l'ont vu. Des historiens de l'époque, qui ne sont pas chrétiens du tout, attestent que ces groupes de personnes ont commencé à témoigner que Christ était ressuscité et qu'ils ont bouleversé le monde de leur époque jusqu'à aujourd'hui. Et la pensée chrétienne, c'est que ce Christ ressuscité n'est pas seulement, c'est pas une philosophie seulement, c'est un Dieu vivant et que maintenant, c'est pourquoi 2000 ans plus tard, des centaines de millions d'entre nous avons tourné nos vies, nos cœurs vers le Christ ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il fait des choses véritables. Il fait des choses abondantes. Il intervient dans nos cœurs. Je terminerai avec les mots de l'apôtre Pierre. Qui les hommes disent-ils que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Pierre termine avec ces mots dans 1 Pierre. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, afin que vous soyez affermis dans la vérité qui est agissante. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie abondante. Pierre dit, il n'est pas seulement une vérité historique, il est un Dieu qui est vivant. Alors, le Dieu qui est vérité, Jésus, devient agissant. Combien d'entre vous, ce n'est pas un concept religieux? Jésus est vérité, mais il est vivant et il agit dans votre vie. Et c'est sa divine puissance qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie abondante. Ce que l'apôtre Pierre dit, c'est ce que 2000 ans d'histoire témoignent, des millions de personnes à travers l'histoire et des milliers dans ce lieu, c'est qu'il y a une abondance de vie. Il y a une plénitude de vie, une satisfaction de vie, un pardon, une grâce, une rédemption, une réponse à nos questions, une paix à travers l'épreuve, une force pour vaincre les choses et habitudes de nos vies qui nous détruiraient. Il y a une abondance de vie que la religion ne peut pas donner, que l'abondance financière ne peut pas donner, que l'éducation ne peut pas donner. Il y a une abondance de vie qui vient lorsque tu réconcilies ton cœur et que tu ouvres ton cœur au Christ qui est vivant. Une abondance de vie qui est donnée à ceux qui reconnaissent Christ qui est vivant. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables, des romans habilement conçus, que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Et en 2006, lorsque j'étais à la radio la semaine dernière, les deux dernières émissions, j'étais surpris de leur surprise. Lorsque je disais aux animateurs, pourtant des hommes assez informés, lorsque je leur disais qu'il y a des centaines et centaines et centaines de millions, on estime à 5 à 600 millions de chrétiens évangéliques sur la planète Terre. des gens qui croient en un évangile qui est vivant, en un Dieu qui est vivant, en un Jésus qui est personnel et qui change leur vie. Je vous dis à vous aujourd'hui qu'il y a 12 ans ici dans ce lieu, il y avait une quarantaine, cinquantaine de personnes. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 3000, des gens de tous les âges, de tous les arrière-plans, de tous les backgrounds et nationalités possibles. Et nous avons une seule chose en commun. On n'a pas fait un changement de religion. On n'a pas passé d'une religion à une autre. Nous sommes entrés dans une relation personnelle avec un Dieu vivant, avec un Christ ressuscité qui change nos cœurs, change nos vies. Et nous avons un témoignage comme Pierre. C'est pas avec des récits habilement ficelés qu'on vous a annoncé l'Évangile. C'est parce que nous l'avons vu, nous l'avons expérimenté et nous avons vécu la réalité du Christ ressuscité. Qui les hommes disent-ils que je suis? Eh bien, à Longueuil, en 2006, nous proclamons, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors que nous arrivons à la fin du message, nous allons regarder un témoignage sur vidéo. C'est une personne de notre Église. Il y a des gens qui viennent de toutes sortes de milieux ici, milieux d'éducation, milieux d'affaires, des gens de tous les âges qui ont un témoignage qui leur est personnel. On pourrait traverser les allées, puis une personne à la fois célébrerait et raconterait ce que Dieu a fait pour elle ou pour lui. Mais notre ami Patrick va témoigner sur la vidéo de ce que Dieu a fait pour lui. C'est assez miraculeux, c'est assez surnaturel. C'est un, comme l'apôtre Pierre dit, moi je suis un témoin de ce que Dieu a fait pour moi, de ce que Christ ressuscité a fait pour moi. Alors que nous arrivons à la fin du message, ouvrez vos cœurs pendant un instant. Le Christ ressuscité est vivant. Il est réel. Il est actif. Et il offre une vie abondante. Qui les hommes disent-ils que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Témoignage de Patrick.
Moi, j'ai commencé à consommer des drogues à l'âge de 12 ans. J'étais suivi par, des travailleurs sociaux, puis toutes ces choses-là. Puis eux, ils se grattaient à la tête, puis ils n'y a rien à faire avec.
C'était un jeune homme dans le temps que je dois dire qui était arrogant quand on le rencontrait.
Lui, Robert Green, il m'avait arrêté plusieurs fois avant. Puis il voyait aussi dans quelle direction je m'en allais. Tu sais, je fréquentais du monde dans le milieu criminel. Là. Puis il disait, Pat, il va finir comme tous les autres. Là.
Et dans le milieu avec lequel il se tenait, les personnes avec qui il se tenait, Il était embarqué dans la voie pour s'embarquer très profondément dans le milieu criminel.
À 17 ans, en fait, j'avais commis d'autres crimes. On avait fait des concernants de char. Puis le 6 janvier 1986, un mardi soir, moi, je devais être incarcéré ce soir-là à cause de tous les crimes que j'avais commis. Je me suis allé au poste de police. Puis Claude, il m'emmenait en interrogatoire.
Je voyais devant moi un jeune homme qui était troublé devant tout ce qu'il vivait dans sa vie.
Le policier me dit, « Pat, ça te dérange-tu si je prie pour toi tout de suite, dans le poste de police? » Là, j'ai fait, « Non, c'est correct. » Tu sais, je dis, « Je n'ai de besoin. » Si je suis honnête avec moi-même, là, je n'avais de besoin. J'avais fait une tentative de suicide pas longtemps avant parce que j'étais tanné de la vie. Puis il pleurait. Ça m'a désarmé bien raide parce que j'ai dit, un policier qui pleure pour moi, là, jamais vu ça. Il m'emmenait avec lui à l'église. C'est pasteur Claude qui prêchait ce soir-là. Il était un invité, il sortait du collège biblique. Puis j'ai répondu à l'appel. Puis à la fin, il a dit, as-tu des gens qui sont ici, qui voudraient donner leur vie à Jésus-Christ afin qu'ils puissent faire une différence dans votre vie. Je me suis avancé en avant, j'ai couru comme si j'allais chercher un trésor. Puis je pleurais, puis je pleurais, puis je savais pas pourquoi. Aujourd'hui, je le sais parce que je reconnaissais la peine, la haine, puis tout ce que j'avais fait au monde. Puis je me disais, si tu peux juste me pardonner pour qu'est-ce que j'ai fait. Puis je sais qu'il l'a fait. J'ai fait mon entrée à l'IFJ Jeunesse le 21 septembre 1993. Puis j'ai fait 13 mois et demi de programme là-bas. C'était quand même assez difficile. Mais Dieu m'a donné sa grâce. J'ai passé à travers tout le programme. J'ai gradué de là-bas. C'est incroyable de voir aujourd'hui tout le cheminement. Parce que quand j'ai sorti Teen Challenge de l'IFJ Jeunesse, j'ai joint l'Église Nouvelle Vie officiellement. C'est pas longtemps après, j'ai connu mon épouse, j'ai habité dans une famille de l'Église, une famille qui m'a pris pendant 2 ans. J'habitais dans cette famille-là, c'est la famille Clavette, c'est une famille merveilleuse. Puis ils ont fait vraiment un impact dans ma vie, cette famille-là, parce qu'ils m'ont accueilli comme leur fils, alors que moi, j'avais plus de famille. Puis aujourd'hui, c'est un peu comme ma deuxième maman.
Quand Patrick a demeuré ici, je l'ai vu comme un fils. Vraiment, je le comprenais et il ouvrait son cœur. Ça allait pas toujours bien. C'est sûr que c'est pas facile de remonter la pente, mais je le voyais s'accrocher au Seigneur, faire confiance. C'est un batailleur, Patrick.
Quand j'ai quitté cette famille-là, j'ai rencontré mon épouse, Annie. On est une belle petite famille, puis on a une belle petite popoune qui s'appelle Bianca. Dans la famille qui est... Bianca, c'est un... Elle le sait pas, mais c'est un rêve que papa il a toujours eu d'avoir une famille. Puis parce que pour moi, la famille, c'est important. Puis aujourd'hui, je le vis. J'ai une belle famille.
Je suis vraiment fière de ce que Patrick a accompli à la mission Bon Accueil. Je trouve que c'est vraiment sa place et je considère que son témoignage sert à quelque chose dans ce milieu-là. Je suis contente de son travail puis je l'appuie à 100%. Et j'espère qu'il va continuer dans cette voie-là de se donner pour les jeunes qui ont besoin.
Ce que j'aimerais dire, Patrick, c'est que oui, je t'ai trouvé baveux, arrogant dans ta jeunesse. T'as changé, puis je t'en félicite. Je sais que t'as travaillé beaucoup pour te rendre où tu es aujourd'hui. T'as perdu beaucoup par moments, mais aujourd'hui, je pense que t'as gagné énormément.
J'étais réceptif, et voilà ce que Dieu a pu faire. C'est Dieu qui a pu faire l'œuvre à cause du fait. Dieu ne se serait jamais imposé sur ta vie, mais par ton obéissance, Dieu peut faire l'œuvre.
Je travaille avec les jeunes de la rue, moi, aujourd'hui, puis moi, ma vie, là, Dieu l'a changé un jour. Ce qu'il a fait dans ma vie, là, il est capable de le faire en tienne. Tout ce que je te demande, tu peux juste te rappeler d'une chose de moi, là. Fais juste te rappeler, là. Laisse une chance à Dieu. Ferme pas ton cœur. Laisse une chance. Parce que des fois, on est vite sa gâchette. Dire, hein, il n'y a pas de Dieu qui existe, puis voyons donc, hein, ce qu'il peut faire dans ma vie, comme j'ai fait. Ce qu'il peut faire dans ma vie, mais si on peut juste lui laisser une chance. Parce qu'il veut s'intervenir dans nos vies, mais c'est nous autres, avec notre réticence, nos craintes, nos peurs, ben voyons donc, penses-tu qu'il y a un Dieu qui existe? Oh, il y en a un. Laisse-lui une chance. Oh, visite ton cœur, puis t'as même pas idée ce qu'il va pouvoir faire dans ta vie.
Ce qu'une religion ne peut pas faire, ce que des bonnes résolutions, de bons principes ne peut pas faire, le Christ vivant peut le faire. Il peut transformer un cœur, il peut changer un être humain, il peut le libérer, et en termes bibliques, en faire une nouvelle personne. Le nom de notre Église s'appelle l'Église Nouvelle Vie, parce que nous croyons que le Christ ressuscité offre une nouvelle vie à tous ceux qui sont prêts à la recevoir, à tous ceux qui sont prêts à ouvrir leur cœur un instant et à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je vous remercie pour votre attention à cette conférence cet après-midi. J'aimerais vous demander une dernière faveur. J'aimerais vous demander de pencher la tête pendant un instant dans un moment de recueillement et de prière. À la première réunion à 9h, des dizaines de personnes ont dit, j'ai besoin de Dieu. Ont reconnu leur besoin de Dieu. Ce matin, je ne vous inviterai pas à vous avancer ici à l'avant, mais simplement là où vous êtes, alors que vous demeurez à votre place. Le Dieu qui demeure, le Dieu qui est fidèle est ici, sa présence est ici. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. J'aimerais m'adresser à des gens qui sont ici, qui peut-être ont toujours eu une reconnaissance ou un respect pour la religion ou pour la foi chrétienne. Vous avez des amis, des parents, des grands-parents, des conjoints, conjointes qui ont la foi, et vous avez toujours été respectueux, mais vous n'avez jamais réellement, vous, pris une décision personnelle devant Dieu. Jésus a dit à un théologien, il a dit à un docteur de la loi de son époque, un homme pourtant excessivement religieux et fidèle à sa religion. Il lui a dit, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Il lui a dit, comment cela sera-t-il possible? Et ce que Jésus lui disait, c'est que tu as une date de naissance physique, tu sais où tu es né physiquement. Mais voici, tu peux naître de l'esprit. Tu peux naître par la foi en Christ. Et là, il y a une naissance spirituelle qui prend place. Et ce jour, aujourd'hui, du 28 mai 2006, peut être votre jour de nouvelle naissance. Vous ouvrez votre cœur. Il y a plein de choses miraculeuses qui vont prendre place dans l'invisible. La Bible nous dit, il y a tellement de gens ici témoigneraient que ces choses-là ont vraiment fait des effets très réels dans leur vie. Très mesurables, tangibles, véritables, indéniables. La Bible dit que lorsque vous allez ouvrir votre cœur ainsi à Dieu, vous allez être pardonné. De lui demander pardon, il va vous pardonner de toutes vos fautes, passées, présentes et futures. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui viendrait me regarder dans les yeux à la fin de cette matinée et me dire, moi, j'ai jamais péché, moi, j'ai jamais fait de mal, moi, j'ai jamais dit quelque chose, fait quelque chose ou pensé quelque chose que je sais qui est mal. Non. Tous sont péchés. Ils sont séparés de Dieu. Tous sont péchés et tous ces fautes, passées, présentes, futures sont sur Christ à la croix. Et lorsqu'il meurt, lui qui est innocent, il paye la rançon. Et lorsqu'il est ressuscité, la même puissance qu'il a ressuscité, devient maintenant disponible pour moi. Je peux naître spirituellement. Et alors tu écris mon nom dans un livre de vie et plus rien ne va me séparer de lui, rien ne pourra me ravir de sa main. À partir de ce moment, ce salut est parfait, il est éternel, il est inatteignable et intouchable. Alors ce matin, dans ce lieu, ce midi, dans ce lieu, vous pouvez venir à lui. Ou bien quelqu'un qui est ici, je crois qu'il y en a plusieurs qui ont connu le Seigneur, mais vous vous êtes éloigné de lui. Et quelle joie à la réunion de 9h. De voir des dizaines lever leurs mains et dire, j'ai déjà connu Dieu, mais je me suis éloigné, j'ai rétrogradé. J'ai été blessé, ou j'ai été déçu, ou j'ai été séduit, ou j'ai été attiré vers autre chose. Et Jésus dit ce matin, le Seigneur dit ce matin, si tu refuses cette invitation de revenir à moi, tu t'endurciras, tu périras, et tu saboteras ton âme, tu avorteras mes plans dans ta vie, et le chemin sera si dur. Viens, reviens à moi, et si tu reviens, moi, je peux te rebâtir. Moi, je peux te recueillir. Moi, je peux te relever. Je peux te restaurer, te libérer, te consoler. Alors, si vous êtes éloigné de lui, vous avez besoin de revenir à lui. Le Christ vivant dans ce lieu ce matin vous appelle. Et dernièrement, des gens qui seraient avec nous pour les premières fois, quelqu'un que tu connais depuis longtemps ou depuis peu, t'as parlé de Dieu, t'as invité, t'as parlé du Code Da Vinci, ça t'intéressait, et t'es venu dans ce lieu ici ce matin. Et sois très, très, très certain de quelque chose. Nous ne sommes pas là, je ne suis pas là pour t'offrir une nouvelle religion, pour t'offrir un gourou, pour t'offrir un changement de religion. Nous ne venons pas t'offrir une religion, je viens t'offrir un Dieu qui est vivant, un Christ personnel et vivant qui tend ses bras à toi et qui dit, viens, venez à moi, viens toi qui es chargé et je te donnerai du repos. Il y a une force, il y a une puissance qui te sera donné que tu ne peux pas avoir autrement. Il y a une capacité de vaincre les choses qui te vaincraient autrement. Il y a une capacité de recommencer, une capacité de pardonner, une capacité d'avancer, une capacité de t'emparer de rêves que tu pensais perdus alors que tu t'abandonnes à Dieu. Alors ce midi, pendant que toutes les têtes sont penchées, que nous prions passionnément pour vous, si vous êtes ici ce matin, alors que le Christ vivant tend sa main, chacun d'entre vous, quel que soit votre âge, votre arrière-plan, il connaît votre nom, votre vie, votre passé, il connaît tout l'avenir que lui a préparé pour vous. Alors ce matin, si vous êtes ici et vous voulez venir à lui, le déclarer publiquement, vous avez une foi secrète ou une foi dans votre cœur, mais ce matin, c'est votre jour pour dire, moi je me donne, j'abandonne ma vie à Dieu. Ou vous vous êtes éloigné de lui, vous voulez revenir à lui, ou pour la première fois, vous voulez naître spirituellement et reconnaître que Jésus est Seigneur. J'aimerais vous demander, là où vous êtes, alors que Dieu tend sa main vers vous, partout à travers ce lieu, si vous êtes prêts à mettre votre main dans la main de Dieu, j'aimerais vous demander, là où vous êtes, de lever votre main et de dire, me voici, Seigneur. Une dame qui est là, il y a un monsieur, il y a un couple, il y a des gens sur le côté, partout dans la salle. Quatre coins de la salle qui lèvent leur main, complètement à l'arrière. Un couple sur le côté, tu as vu votre main, vous pouvez la baisser. D'autres personnes peut-être, moi ça me prend quelques instants pour voir la main dans une grande salle, mais Dieu lui, à l'instant, votre cœur, madame, monsieur, le couple, les jeunes sur le côté en ce moment. Vous pouvez baisser votre main. Quelqu'un d'autre qui n'a pas encore levé sa main. Dieu, lui, dans le souffle où tu te tournes vers lui, dans la fraction de seconde où tu te tournes vers lui, ses bras reçoivent ton cœur et reçoivent ta vie, parce que lui déjà connaissait tout de toi, tous tes soupirs, toutes tes prières secrètes. Quelqu'un d'autre qui est ici, qui dit, moi aussi, je vais me joindre à tous ceux qui lèvent la main. Un monsieur, une dame, vous pouvez baisser votre main, madame. Dieu vous connaît et Dieu a vu votre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, avant que nous allions à la prière pour tous ces gens qui ont levé la main? Voici ce que nous allons faire. J'aimerais demander à toute l'assemblée de se lever. Nous allons nous lever tous ensemble. J'aimerais vous conduire dans une prière. Il y a beaucoup de gens, des gens à côté de vous qui ont levé la main, des gens qui auraient dû lever la main, qui viennent à Dieu ou reviennent à lui. J'aimerais demander à toute l'assemblée, avec cœur, avec conviction, de joindre vos voix en prière. Et vous qui avez, à ceux qui ont levé leur main, si vous avez levé votre main, je vais vous conduire dans une prière. Ce n'est pas la répétition qui compte, mais votre cœur sincère alors que vous allez la prier. Alors, dans ce moment de foi, dans ce moment miraculeux, voulez-vous prier avec moi en répétant ces mots, que toute l'Église va prier avec vous pour vous dire que nous sommes avec vous dans ce moment le plus important de votre vie. Tous ensemble, prions en disant, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais mon besoin de toi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je te déclare mon Seigneur et mon Sauveur. Fais de moi une nouvelle personne. Donne-moi une nouvelle vie. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que ton esprit maintenant vienne témoigner à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Donne-leur, Seigneur, l'assurance de leur salut, la conviction de leur salut, et commence une œuvre en eux qui ne s'arrêtera jamais. Qu'ils deviennent aujourd'hui miraculeusement le temple du Saint-Esprit. Ils deviennent toutes leurs fautes passées, toutes les condamnations sont effacées, sont lavées. Et nous recommençons une nouvelle vie avec toi aujourd'hui. S'il y a des habitudes qui les détruisent ou leur font du mal, remplis-les de la force, Seigneur, d'être libérés. Brise les liens sur leur vie. Qui les hommes disent-ils que tu es? Nous le déclarons ici à Longueuil aujourd'hui. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Seigneur, la Bible nous dit que s'il y avait eu une seule personne qui avait levé sa main, tous les anges du ciel auraient entré en célébration et en acclamation. Alors nous nous joignons aux anges du ciel pour applaudir le plus grand de tous les miracles. Des hommes et des femmes qui découvrent, reçoivent Jésus, le Seigneur, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donnez-lui un 10 secondes d'ovation alors que nous terminons ce matin. Et célébrez le plus grand de tous les miracles.
Enseignement.com.
Enseignement.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignement.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignement.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.